Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'écrire et être lu, dans lequel cette semaine nous allons parler des arcs narratifs et comment les construire. Alors, l'arc narratif, qu'on appelle aussi l'arc dramatique, il est commun à toutes les histoires, quel que soit leur support. Qu'on parle de séries, de films, de romans, de pièces de théâtre, c'est la colonne vertébrale de toute narration construite et cohérente. Il n'a rien à voir avec le plan d'un roman, et ce n'est pas non plus son intrigue. Et même le plus grand jardinier de l'histoire de la littérature est, consciemment ou non, obligé de suivre une structure, un arc narratif. Un bon arc narratif est vital pour que le lecteur accroche à votre roman du début jusqu'à la fin, et qu'il soit satisfait par la conclusion que vous donnez à votre histoire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un arc narratif si ce n'est pas une intrigue et si ce n'est pas le plan? À quoi ça sert et comment le construire? L'arc narratif, c'est le terme qui décrit la progression complète d'une histoire. C'est la vision globale de votre récit. Ça prend généralement un aspect visuel sous la forme d'un graphique qui prend la forme d'une pyramide ou d'une colline ou d'un arc, d'où son nom, qui nous rappelle un petit peu les cours de maths du collège, enfin en plus intéressant, parce que moi les cours de maths au collège c'était pas trop mon truc. Dans un arc narratif, il est souvent, mais pas toujours, convenu que le début de l'histoire sera calme, suivi d'un milieu chargé en tension, en conflit entre les personnages et en élan dramatique jusqu'à atteindre un pic, ce qu'on appelle le climax, et après quoi la fin voit la résolution du conflit. Vous connaissez très certainement des dizaines et des dizaines de formes d'arc narratif sans le savoir. Un gars rencontre une fille, le gars perd la fille, le gars retrouve la fille. Il n'y a pas plus basique, mais c'est un bon exemple d'un arc narratif. Si vous ajoutez de la complexité à une histoire, c'est ce qui va différencier un roman d'un autre, même si les deux livres parlent plus ou moins de la même chose. L'arc dramatique, sous sa forme la plus simple, il est très similaire à une pièce de théâtre en trois actes. L'acte 1, vous présentez le contexte, les personnages principaux et les premiers germes du conflit. Acte 2, vos personnages changent et évoluent en réponse aux conflits et aux circonstances. Ils font tout pour résoudre leurs problèmes et atteindre leurs objectifs. Les conflits continuent de prendre de l'ampleur jusqu'à l'apogée, c'est-à-dire le climax. Acte 3, les personnages résolvent leurs problèmes et c'est la fin de l'histoire. Alors, quelle différence y a-t-il entre un arc narratif et une intrigue? L'intrigue, elle est composée des événements individuels qui composent votre histoire. Alors que votre arc dramatique, c'est l'enchaînement de tous ces événements. Imaginez que chaque scène de votre roman soit une carte à jouer. Vous les empilez les unes sur les autres pour créer votre histoire. Votre pile de cartes représente l'intrigue de votre roman. Mais l'ordre dans lequel vous les avez empilées, ça, c'est votre arc narratif. Réfléchir à votre arc narratif, c'est essentiel. Parce que c'est en le faisant que vous verrez s'il y a une des scènes placées au début, finalement elle appartient plutôt à l'acte 3, ou si vous avez mis trop de scènes consacrées au conflit interne à la suite, et ce, au détriment du conflit externe. Ordonner votre intrigue en un arc narratif cohérent, ça va aider votre lecteur à naviguer dans votre histoire et ça va vous permettre de le mener là où vous voulez et quand vous le voulez. Si vous maîtrisez votre arc narratif, vous maîtrisez la situation. Et l'arc de personnage, vous allez me dire peut-être. L'arc narratif est à l'histoire ce que l'arc du personnage est au personnage. Le premier déroule l'intrigue sur une plus grande échelle, alors que le second est le voyage intérieur qu'un personnage va faire tout au long du déroulement de l'histoire, parce que n'oubliez pas que votre histoire va changer vos personnages. Les deux se font simultanément et en complète symbiose. C'est l'avancement de votre histoire sur l'arc narratif qui va déterminer si votre personnage se rapproche ou s'éloigne de ses objectifs et de ses désirs. Les circonstances et les conflits auxquels vos personnages sont confrontés font partie de l'arc dramatique, mais la façon dont les personnages relèvent les défis et changent en conséquence, ça, c'est le territoire de l'arc des personnages. Je vais prendre un exemple plutôt connu. Ceci dit, si vous n'avez jamais regardé la série Breaking Bad, attention parce que je vais vous la spoiler sévère. Donc, dans cette excellentissime série Breaking Bad, Walter White est un prof de chimie de lycée complètement inoffensif qui se voit diagnostiquer un cancer des poumons, si ma mémoire est bonne. Pour assurer l'avenir de sa famille, il va se lancer dans la production et la vente de drogues méthamphétamines. Son business va successivement l'amener au mensonge, à la menace, au vol et au meurtre. Et à la fin des 5 saisons, il est devenu l'homme le plus recherché du Nouveau-Mexique et il a perdu tout ce pourquoi il avait commencé à fabriquer de la drogue, c'est-à-dire sa femme et ses 2 enfants. Si je simplifie à l'extrême, le mensonge, la menace, le vol, le meurtre, ce sont des éléments de l'arc narratif. La transformation de Walter White de prof de chimie inoffensif en baron de la drogue cruel et sans pitié, ça, c'est l'arc du personnage. Et vous voyez que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, comment construire un arc narratif? Est-ce que vous vous souvenez des 3 actes dont je vous ai parlé tout à l'heure? Alors ça, c'est la forme très simplifiée d'un arc narratif, évidemment. Mais elle est connue et souvent représentée graphiquement sous la forme d'une pyramide qui, elle, comprend non pas 3 actes, mais 5. Cette pyramide, elle s'appelle la pyramide de Freytag. Nous en devons la découverte à Gustav Freytag, qui était un romancier allemand du 19e siècle. En 1863, il a dégagé le schéma caractéristique des intrigues de son époque, et il en a déduit que chaque histoire passe par 5 étapes. L'exposition, l'action croissante, le climax, l'action décroissante et le dénouement. La pyramide de Freytag, ce n'est évidemment pas le seul arc narratif qui existe, il y en a beaucoup d'autres, le in medias res, le voyage du héros, pour n'en citer que 2, mais c'est un outil très pratique pour expliquer les arcs narratifs, alors je vais me concentrer sur celui-ci pour la suite de ce podcast. Première étape, l'exposition. C'est l'introduction de votre livre, celle qui correspond à l'acte 1 de votre arc narratif. C'est dans cette partie que vous allez poser les choses en donnant des informations sur le contexte. Votre lecteur va faire la connaissance de votre personnage principal, de votre univers, du lieu et de la période de votre histoire. C'est également le moment de planter la graine qui va générer le conflit sur lequel sera basé votre roman. En d'autres termes, vous mettez la table, mais le dîner n'a pas encore été servi, même si, à l'odeur, vous avez une petite idée du menu. Pour savoir quels éléments aborder dans votre phase d'exposition, vous répondez aux 5 W en anglais, qu'on appelle les 5 questions de base en français. Qui, quoi, quand, où et comment. Pour être plus précis, voilà les 3 incontournables. Vos personnages, qui sont-ils et comment les différencier les uns des autres. Le monde, l'univers, où votre histoire se déroule-t-elle et quand, sur quelle planète, à quelle époque. Et le ton. Dans quoi allez-vous embarquer votre lecteur? Une romance fleur bleue qui se transforme tout d'un coup en invasion zombie apocalyptique pourrait peut-être décontenancer votre lecteur et au final ne plaire ni aux amateurs de romance ni aux amateurs d'invasion zombie. La longueur de votre exposition, elle, va bien sûr dépendre de la longueur de votre livre, mais j'ai tendance personnellement à croire qu'aujourd'hui, les lecteurs ont plutôt envie de rentrer rapidement dans le feu de l'action. Moi, je serais donc d'avis de ne pas trop m'étendre sur cette partie, mais ce n'est qu'un avis personnel. Alors attention, il faut ce qu'il faut quand même. N'allez pas bâcler l'exposition en 2 pages pour enchaîner tout de suite avec des scènes de sexe ou des scènes de combat au sabre laser, qui sont d'après moi les 2 raisons valables de lire un livre. N'oubliez pas la sacro-sainte règle du show don't tell, ou montrer n'expliquez pas, qui veut que votre présentation, votre exposition, soit intégré dans votre histoire, et pas platement déroulé dans une introduction qui va plus tenir de la liste de courses que de la littérature. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que c'est une erreur très courante chez les auteurs débutants, et c'est souvent ce qui me fait refermer définitivement un livre avant la fin de la 2e page. Si vous voulez en savoir plus sur le show don't tell, montrez n'expliquez pas, vous avez un lien vers un article qui est dédié dans la transcription texte de ce podcast sur écrireetrelu.com. Je vous invite fortement à le lire. 2e étape, l'action croissante. Une histoire, ça tient plus de l'océan déchaîné que du lac de montagne. S'il n'y a pas de ride à la surface de l'eau, on s'ennuie. Le début de l'action, il commence généralement avec ce qu'on appelle l'incident déclencheur. c'est l'événement ou l'action d'où va découler toutes les complications qui vont suivre. C'est le cancer de Walter White, dont on parlait tout à l'heure. C'est l'arrivée des droïdes sur la planète de Luke Skywalker. C'est le moment où Juliette rencontre Roméo, etc., etc. L'incident déclencheur, c'est ce qui va sortir le protagoniste de son monde « normal », entre guillemets, pour le propulser dans le monde « anormal », entre guillemets toujours, et débuter une série d'événements qui vont le mettre en difficulté. Maintenant que votre exposition a posé vos personnages et les sources de conflits, il est temps pour vous de développer vos personnages et les relations qu'ils entretiennent en leur donnant de la profondeur, et d'augmenter la tension en opposant des obstacles et des épreuves toujours plus difficiles entre le protagoniste et l'antagoniste. Ça, c'est le fondement de cette deuxième étape qu'on appelle l'action croissante. Si vous voulez garder le lecteur en haleine, un moyen très efficace consiste à considérer chaque conflit de l'action croissante comme un mini-arc narratif avec ses propres expositions, ses propres climax et ses propres dénouements avant de recommencer le même schéma avec le prochain conflit. Le lecteur, il est comme ça embarqué dans une espèce d'ascenseur émotionnel en mouvement permanent et il n'a jamais le temps de s'ennuyer. Troisième étape, le climax. Le bon climax, ou le bon point culminant, en bon français, ça repose sur tout ce qui l'a précédé. Les intrigues, les objectifs, les désirs, les arcs de personnages se retrouvent et sont soigneusement emballés ensemble au moment de ce point culminant. C'est le point de convergence où la tension arrive à son paroxysme et dans lequel tout se rejoint dans un clic satisfaisant. D'un autre côté, un mauvais point culminant, c'est le moyen le plus simple pour qu'un lecteur se sente trompé, jette votre livre contre un mur, l'utilise pour caler une armoire ou pire. Et croyez-moi, il n'achètera plus jamais un de vos livres. Il faut donc avoir conscience que le point culminant, c'est une partie hyper importante de votre histoire. Parce que si c'est le début de votre livre qui vend votre roman, c'est le point culminant qui va vendre le prochain roman que vous allez écrire. Quatrième étape, l'action décroissante. Vous avez fait monter la pression et tout a fini par exploser en un magnifique bouquet final qui va faire des hauts et des ahs à vos lecteurs. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Stopper l'histoire juste après le climax reviendrait à faire ce que j'appelle une fin en queue de poisson. On pourrait croire que ce genre de fin est une bonne façon de terminer sur une ouverture, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Ça laisse juste un goût amer en bouche et un gros sentiment de frustration. La règle à suivre, elle est simple, tout ce qui est monté doit redescendre. Maintenant que Frodon a jeté l'anneau unique dans le feu de la montagne du destin, nous voulons savoir s'il va pouvoir rentrer en sécurité dans la comté. Nous voulons savoir si Aragorn sera sacré roi du Gondor, et nous voulons savoir si Sam avouera son amour à Rosie. Tout ça, ça vient après le climax, et ça sert de pont vers la conclusion, vers le dénouement de votre histoire. Deux conseils dans cette étape de l'action décroissante. Dans action décroissante, n'oubliez pas qu'il y a action. Ce n'est pas parce que le climax est terminé que rien ne doit se passer et que votre protagoniste doit toujours être en mouvement. C'est généralement à ce moment-là que l'auteur résout toutes les intrigues secondaires et tous les petits conflits. Si vous ne voulez pas laisser votre lecteur sur sa fin sur une partie ou une autre de votre roman, c'est maintenant qu'il faut le faire. Enfin, dernière étape, le dénouement. Appelé aussi résolution, c'est le moment où Frodon embarque sur le bateau des elfes. C'est le moment où Walter White rend son dernier soupir. C'est le moment où Ishmael est secouru en mer. C'est le gros nœud rouge qui termine l'emballage. Votre lecteur peut à nouveau respirer et conclure votre roman avec satisfaction. Alors, est-ce que la pyramide de Freytag fonctionne avec toutes les histoires ? L'histoire est parsemé de romans qui ont inversé la tendance. Sur la route de Kerouac ne possède pratiquement aucun arc narratif, tandis que un roman comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en possède deux. Tout ça pour dire que l'arc narratif, c'est pas quelque chose de figé. Il y a énormément de place pour l'explorer et le modifier, c'est quelque chose de très souple. Perturber les attentes du lecteur, c'est pas toujours une mauvaise chose. Mais s'en éloigner, ça nécessite quand même d'avoir une excellente compréhension des arcs narratifs. Après tout, vous n'allez pas commencer à improviser sur un piano si vous ne connaissez pas la gamme, si vous ne connaissez pas le solfège. Au final, voilà ce que fait un arc narratif. Il donne une forme à votre histoire. Il existe bien d'autres formes d'arc dont je parlerai sur ce podcast très prochainement. Pour ajouter plus de dimension à votre histoire, vous pouvez aussi expérimenter l'utilisation de sous-intrigues. Elles fonctionnent comme des mini-arcs, même si elles doivent toujours viser à contribuer à l'arc principal d'une manière ou d'une autre. Ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez trouver la transcription texte de ce podcast sur écrireetrelu.com. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao !